Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. C'est une bonne introduction pour ce que j'ai à vous dire ce matin. Nous voulons voir Jésus élevé. Je vous donne rendez-vous à la fin de l'évangile de Marc. Marc 16, versets 15 et 16. Puis Jésus leur dit « Allez dans le monde entier ». Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et puis, l'épître de Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, qui dit « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Une autre traduction dit « un peuple que Dieu a libéré » afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Voilà deux textes, il y en a d'autres, qui nous disent que nous sommes appelés à proclamer les merveilles de notre Seigneur, à proclamer ce qu'il a fait pour nous et pour les autres, à proclamer son plan de salut pour l'humanité. Et le texte de 1 Pierre 2 ne parlait pas simplement de nous individuellement, puisqu'il est question d'un peuple, de peuple de Dieu, le peuple que Dieu a libéré. Et l'Église est le peuple de Dieu. Notre Église est un petit bout, une petite partie du peuple de Dieu. Comment faire pour mettre en pratique cette phrase « Vous êtes le peuple que Dieu a libéré » afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Comment proclamons-nous les louanges de Dieu? Alors, il y a plusieurs façons. Par la louange, justement. C'est ce qu'on vient de faire, le temps de louange de notre culte, où ensemble, nous avons chanté les merveilles de Dieu. Et ça, c'est précieux pour nous, parce que nous nous encourageons les uns les autres. C'est précieux pour Dieu, pour qui la louange de son peuple est précieuse. C'est précieux pour les anges, et les anges amis et hostiles, pourrons-nous dire, parce que la parole de Dieu nous dit que les anges apprennent des choses par l'Église, aussi curieux que cela paraisse. Et puis nous avons aussi proclamé les louanges de Dieu par la célébration de la Sainte Cène, ça aussi on vient de le faire. Et là aussi, nous le faisons entre nous, nous le faisons devant Dieu et devant les anges. Et pour les autres hommes, ceux qui ne sont pas présents dans cette salle ou dans un lieu de culte ce matin, comment faisons-nous, comment proclamons-nous l'Évangile, les autres hommes, les autres femmes, les autres enfants. Nous sommes donc appelés à proclamer l'Évangile et à le faire en dehors de notre Église habituelle. Est-ce que nous sommes convaincus que c'est notre responsabilité? Est-ce que nous sommes persuadés que notre Église doit développer une culture d'évangélisation? J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que c'est qu'une culture? Je ne parle pas au sens agricole de la chose. Ça peut être une habitude, dit Anne. Alors c'est difficile à définir une culture, parce que c'est les choses qui se font dans un certain milieu et qui n'est pas écrit. Ce sont des règles non écrites, des habitudes. On n'a pas vraiment décidé et pourtant on fait comme ça. À propos d'annonce de l'Évangile, dans quelle culture sommes-nous? Alors, il y a plusieurs cultures dans une église. Il y a la culture entre nous. On est bien entre nous. Hein ? Il fait chaud alors qu'à dehors, il fait froid. On se connaît entre nous. On connaît tout. On connaît les chants. On connaît déjà les histoires de la Bible. Jacob, Ésaü, tout ça, on sait par cœur. Et on est rassuré. Mais c'est une culture de non-évangélisation. Et puis, il y a la culture des événements d'évangélisation. Donc, on fait rien, on laisse venir. Et puis, une fois de temps en temps, là, on va faire un gros effort, enfin, surtout financier en ce qui nous concerne, parce que c'est surtout les autres, je pense à Pat Berning, bien sûr. C'est rassurant. On fait quelque chose, on a l'impression que là, on est fidèle, on est obéissant, on fait quelque chose. Mais le reste du temps, on ne se sent pas trop concerné. Et puis, il y a la culture des professionnels de l'évangélisation. Il y a les évangélistes. Voilà, on les laisse faire, c'est leur boulot, ils savent faire, nous, on ne sait pas. Je vous propose de réfléchir à une façon d'aller vers une culture d'évangélisation. Alors, vous allez discuter entre vous pendant un petit temps. Voilà. Ce jeune homme, qui était dans les bancs de notre église là jusqu'à il y a 15 jours, bon, il est fictif, hein, cherchez pas de ressemblance. Voilà. Il part comme missionnaire en Arabie Saoudite. Trois questions. Qu'est-ce que vous faites pour sa formation avant qu'il parte? Comment allez-vous prier pour lui? Et que faire pour le soutenir une fois qu'il sera parti? Allez-y, je vous ai 3 minutes, vous mettez par deux, par trois, vous discutez. Trois questions. Que faire pour sa formation? Comment allons-nous prier pour lui? Comment allons-nous le soutenir? Stop, stop, stop. Arrêtez tout, je me suis trompé de question. Astrid, lycéenne, qui veut témoigner. Arthur, plombier, qui parle de Dieu à ses collègues. Sylvie, retraitée, qui parle de Jésus à ses amis du club de gym. Comment allons-nous faire pour leur formation? Comment allons-nous prier pour eux, pour elles? Comment allons-nous les soutenir? Allez, reprenez vos discussions. Excusez-moi, je m'étais un peu trompé de question. Bien, j'interromps vos discussions passionnées. Je pense que vous avez compris le but de l'exercice. C'est que nous comprenions que la lycéenne, le plombier, la retraitée sont des missionnaires. Et que notre Église doit les soutenir, doit les former, doit prier pour eux et doit les soutenir. Je vous donne une définition de ce que pourrait être une culture d'évangélisation, elle n'est pas de moi. Hein. Toute l'Église, mobilisée par l'Évangile, mise au service de ses membres pour permettre à chacun de proclamer l'Évangile selon ses dons et les opportunités rencontrées. Toute l'Église, c'est une action concertée. Non pas pour œuvrer ensemble. Là, pour une fois, aujourd'hui, je ne vous parle pas dehors les murs. Je vous parle de ce que chacun de nous peut faire, dans son coin. Mais toute l'Église va soutenir cette action. Toute l'Église doit encourager chacun de nous à être un missionnaire, là où il est, avec ses dons, avec les occasions qu'il rencontre. Mobilisé par l'Évangile, pas par la culpabilité. Je parle de toi, Seigneur, Pas vraiment parce que j'en ai envie, mais parce qu'il le faut. Donc, je ne veux pas un coup de bâton, je ne veux pas que tu me déboîtes la hanche. Pas non plus par l'enthousiasme de quelques-uns. Vous savez, dans certaines églises, il y a des gens qui sont très charismatiques et qui entraînent avec eux. Nous, la seule personne charismatique que nous connaissons, elle s'appelle Jésus-Christ. C'est l'appel du Seigneur. Et nous devons en effet saisir les opportunités, les relations que nous avons, nos amis, les personnes que le Seigneur met sur la route, nos collègues de travail. Alors, il ne faut pas en faire une idée fixe, ça nous rendrait insupportable. Tiens, là, encore Jésus qui passe. Mais ne pas abandonner non plus le combat. Alors, comment développer une culture d'évangélisation ? Alors, qu'avez-vous trouvé comme réponse ? Formation ?
Déjà, nous, ce qu'on a pensé, c'est que s'ils partaient, c'est qu'ils étaient déjà pas mal formés.
Oui. Mais il peut être question de formation continue, n'est-ce pas ?
Oui.
La lecture de la parole. On va reprendre ça après. La prière ? Oui, alors voilà, oui, la prière, oui, c'est une très bonne réponse, oui. Et le soutien ? Alors, formation. La première formation, c'est d'exposer régulièrement, en église, le contenu de l'évangile. Savoir de quoi on parle. Et le contenu de l'évangile, c'est pas compliqué. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. Ce que je vous lis là, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est pas compliqué l'Évangile, ça tient en une phrase. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et tout ça, selon les Écritures. Parce que c'est l'Évangile qui nous motive, c'est lui que nous devons annoncer fidèlement, c'est lui qui nous permet de discerner que les gens qui nous entourent sont perdus s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Je vous rappelle notre première lecture, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, nous ne devons pas présumer que dans notre église, là, ici, que tout le monde connaît l'évangile. D'abord parce qu'on oublie. Et puis parce que il y a des jeunes, et puis il y a des moins jeunes qui oublient, et puis on peut avoir des visiteurs, et puis parce que qu'est-ce que nous pouvons avoir de mieux à raconter dans une église que l'évangile ? Nous venons de passer quelques jours à la pastorale des églises baptistes et notre orateur nous racontait qu'il lui était arrivé d'être invité dans une église et de parler qui n'était pas l'église, une église où il avait l'habitude d'aller. Et quand il a eu fini de parler, à la fin, il y a une dame qui s'est approchée de lui qui a dit: c'est pas mal ce que vous avez dit, mais quand même, je trouve que vous avez trop cité la Bible. Et il dit, les bras m'en sont un peu tombés, je croyais être dans une église, quoi. Je pensais que c'était un endroit où il était un peu normal de parler de la Bible. Apparemment, c'était pas l'habitude. Quelqu'un a écrit que présumer l'Évangile, c'est fatal. Quand l'Évangile est présumé, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas chaque dimanche, on commence à penser que tous ceux qui viennent le dimanche matin sont chrétiens. Donc il n'est plus nécessaire de partager, d'enseigner ou de prêcher l'Évangile. Et petit à petit, la confusion vis-à-vis de l'Évangile grandit. Les actions externes, ce qu'on peut faire, donc, sont confondues avec une foi chrétienne authentique. La moralité devient un critère de salut au lieu d'être une réponse à l'amour de Dieu. Et bientôt, l'Évangile est perdu tout court. C'est un certain Mark Steele qui a écrit cela. Alors non seulement il faut l'exposer, l'Évangile, mais il faut développer la confiance dans l'Évangile. Rappeler que c'est la seule puissance capable de changer, de nous changer, de changer notre vie, notre cœur, notre futur immédiat, notre futur éternel, notre personne. Il n'y a que Dieu qui change les cœurs. On vient de le voir avec Jacob, et c'est toujours vrai maintenant. Paul disait aux Romains, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis il disait aussi, toujours le même Paul à Timothée, la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui fait l'objet de la foi, tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Alors, j'enfonce une porte ouverte. Vous me direz, on a l'habitude qu'ici, à cet endroit, les gens nous parlent de la parole de Dieu. Eh bien oui, c'est bien, mes frères et mes sœurs, continuons, parce que c'est elle qui peut préparer et adapter les hommes et les femmes que nous sommes à toute bonne œuvre, à toute œuvre bonne. Et puis, il nous faut nous rappeler que la conversion, c'est pas une option, c'est pas une possibilité éventuelle, c'est une nécessité. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu ne veut pas des gens gentils. Des gens qui ont un peu changé leur façon de vivre. Des gens qui ont une vague idée de qui il est. Il veut des personnes transformées, sauvées, régénérées par l'Évangile. Et il nous donne les moyens pour cela. Et puis, dans la formation, rappelez régulièrement que chacun de nous est un missionnaire. Le but, c'est que chacun puisse partager, prier et prendre les occasions qui se présentent. Et puis, encourager à utiliser les situations banales de la vie. Pour parler du Seigneur, il n'y a pas besoin d'un décorum particulier. Je vous ai mis un exemple. Combien il y a de gens qui vous disent « Comment ça va ?» Qu'est-ce qu'on leur répond ?« Ça va ?» Alors qu'on pourrait leur répondre « Grâce à Dieu, je vais bien. » Ou « J'ai été fatigué, mais Dieu m'a relevé. » Quand on vous dit « Dans ce monde, tout va mal. » On entend. On a plusieurs réponses possibles. C'était écrit. Ou c'est à cause de l'éloignement de Dieu. J'attends un monde nouveau. Toutes des choses qui sont susceptibles d'amorcer une conversation. C'est pas avec une phrase comme ça qu'on va convertir quelqu'un, bien sûr, mais ça peut être un début. Il n'y a pas vraiment de justice dans notre monde. Ben oui, vous avez bien raison. La seule justice, elle est divine. Alors je fais le malin hein, comme ça. Hein. Ne croyez pas que ce que je suis en train de vous dire, je pratique ça tous les jours. Je m'encourage en vous encourageant. Et si quelqu'un vous parle de sa santé chancelante, est-ce que vous m'autorisez à prier pour vous ? Voilà, c'est juste des petits exemples. Hein. Mais peut-être qu'il peut être utile aussi, de temps en temps, de me dire, mais comment je peux utiliser les choses les plus banales de notre vie pour le Seigneur. Et puis savoir être différent. On est dans un monde où il est bien de hurler avec les loups. Et si nous montrions de la compassion, le désir d'aider notre prochain, avoir un esprit de douceur, permettre à d'autres. Tout cela pour permettre à d'autres de se poser des questions. Et l'apôtre Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 2 que, pardon, c'est au chapitre 3, qu'il faut que nous soyons prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous à des personnes qui nous posent des questions. Mais elles ne nous en poseront que si l'espérance qui est en nous se voit. Ou si il y a quelque chose dans notre discours qui les a étonnés. Si on est bien lisse, bien formaté par notre monde, personne ne nous posera de questions. La prière. La prière, c'est un combat où nous pouvons peser sur ce qui entrave l'Évangile. Vous savez, dans l'Épître aux Éphésiens, il est question de l'armure du chrétien. Il y a le bouclier de la foi. Là. Et à la fin de toute cette énumération, il y a la prière. Alors la prière, il y en a de deux sortes. Il y a la prière personnelle, celle qu'on fait tout seul, pour soi-même. Hein ? Seigneur, donne-moi le courage. Donne-moi les occasions. Donne-moi en même temps les occasions et le courage. Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Seigneur, je veux me mettre à ton service, parce que les gens autour de moi sont perdus. Mais j'ai peur. » Seigneur, donne-moi le courage. Et en plus, la paix qui est promise. Et puis, il y a la prière de l'Église. Même l'apôtre Paul avait peur de manquer de courage. Vous savez ça ? Il dit aux Éphésiens, « Priez pour tous les saints et pour moi. » Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Vous voyez, Paul qui demande, qui est conscient qu'il faut un certain courage, il était bien passé pour le savoir, ça lui avait coûté assez cher. Mais qu'il faut un certain courage pour parler de l'Évangile et qui demande qu'on prie pour lui, pour qu'il ait ce courage. Alors prions les uns pour les autres. Prions pour... J'ai mis des prénoms fictifs. Je ne voulais pas mettre Célia dans son lycée, mais j'aurais pu. Alors j'ai mis Astrid, c'est plus neutre. Mais prions les uns pour les autres. Prions pour notre plombier ou pour ceux qui lui ressemblent. qui parlent aussi du Seigneur sur leur lieu de travail. Prions pour nos retraités qui parlent autour d'eux de ce que le Seigneur a fait pour eux. Mais pour prier, il faut connaître les besoins. Alors, n'hésitez pas à en parler. J'ai rencontré mon voisin. On a commencé à parler. Je suis un peu dans la crainte. On prie pour vous. N'hésitez pas à le dire. Il y a une réunion de prière ici. Elle est faite pour ça. Alors, tout le monde ne peut pas venir. Mais au moins que ceux qui y sont soient au courant des combats que chacun mène, que nous puissions prier pour cela et nous soutenir. Un petit mot, un coup de fil, un petit mot sur le WhatsApp prière pour ceux qui sont abonnés. Voilà. Et ça, du coup, on passe insensiblement de la prière au soutien. Comment soutenir ? Ben pour être soutenu par l'Église, il faut parler de ce que l'on vit à une ou à l'autre personne, aux anciens, aux pasteurs quand on en aura un. Ne pas rester seul avec un poids. Dans beaucoup de métiers, notamment les métiers de la santé ou de la psychologie, il y a une supervision. Ce qu'on a fait, les problèmes qu'on a affrontés, abordés, de temps en temps, on en parle avec quelqu'un d'autre. Ce qui permet de faire le point sur ce qu'on a dit et peut-être d'abord soi-même de se décharger un petit peu et puis peut-être d'avoir d'autres idées. N'hésitons pas à parler de ce qu'on a vécu avec notre voisin, notre ami de travail, à en parler à l'un ou l'autre. Et à faire comme ça, une supervision. Et puis, utilisez le culte ou les groupes de maison. J'ai parlé avec ma voisine, c'est commencer par « comment allez-vous ?» Et puis du coup, ben, ma voisine, elle est intéressée. Et je ne sais plus trop que lui dire maintenant. Alors, vous savez, dans l'Évangile, il y a un type formidable qui s'appelle André. Un type formidable, il s'appelle André. André, c'est le frère de Pierre. Et quand vous lisez les évangiles, André, on lui pose de temps en temps un problème. Vous savez comment il répond ? Il envoie voir quelqu'un d'autre. Il dit, je brode, je ne sais pas s'il a dit ça, mais il a dit, moi je ne sais pas, mais par contre je vais t'amener vers quelqu'un qui sait. On peut utiliser ce qui se passe dans notre Église aussi pour venir au secours de ce qu'on a semé. Et faire germer. Et puis, utiliser les événements. Pas de burning, c'est pas pour rien. Vous savez à quoi ça sert, les événements d'évangélisation, comme le futur concert de Pâques ? Ils sont là pour nous aider dans l'évangélisation que nous faisons déjà. Si on n'en fait pas, on fera de la musique. Mais c'est tout. Les personnes ne viendront pas. Pourquoi vont-ils venir voir un concert de Bad Burning ? Parce que déjà, on leur aura mis l'eau à la bouche. Et l'eau à la bouche, ce n'est pas de dire c'est quelqu'un qui joue bien de la musique. C'est quelqu'un qui peut changer ton cœur. C'est quelqu'un qui peut te dire des choses importantes. Je conclus. Je vous rappelle la définition. Et avant, je vais vous dire ceci, c'est encore pas de moi, c'est une citation. Le défi pour nous, c'est de faire de l'Évangile le centre de notre vie. Pas seulement le dimanche matin, mais aussi le lundi matin. Oui, hein ? Pour le marché, par exemple. Hein ? Mais même le mardi, et en tirant un petit peu, ça peut aller jusqu'au samedi qui suit. Cela veut dire voir notre lieu de travail, notre maison, notre voisinage, comme un champ de mission. Nous ne partons pas en Arabie Saoudite, mais nous sommes missionnaire quand même. Cela aussi implique d'entretenir une culture d'église où nous pouvons parler de ce que nous vivons la semaine et avoir de l'aide, où nous discutons sur la manière de profiter de notre emploi du temps quotidien pour l'Évangile. Toute l'Église, mobilisée par l'Évangile, mise au service de ses membres, pour permettre à chacun de proclamer l'Évangile selon ses dons et les opportunités rencontrées. Avec ces deux phrases un peu flash, une Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et puis une Église qui n'annonce pas l'Évangile aux non-chrétiens, c'est qu'elle n'apprécie pas la valeur de ce qu'elle a. Et elle finira par ne plus apprécier pour elle-même l'importance de l'Évangile. Alors ne soyons pas comme ça. Je sais que ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce n'est pas franchement nouveau. On le fait déjà. C'était un encouragement. Un encouragement pour dire à chacun de nous, nous sommes, vous êtes. Missionnaire, là vous êtes. Soyons-en conscients, demandons au Seigneur de nous aider, demandons à l'Église de nous aider. Merci beaucoup.